Vous écoutez RFI, il est minuit en temps universel, 1h du matin à Paris, 19h à Washington.
Diane Berger.
Aux États-Unis, cette victoire du camp républicain, Donald Trump n'est officiellement plus poursuivi pour ingérence électorale. La justice renonce à ses poursuites contre le président élu qui prépare son retour à la Maison-Blanche. Des élections contestées, c'est le cas toujours en Géorgie. Nouvelle mobilisation ce lundi de l'opposition pour dénoncer les législatives du mois dernier. Notre correspondant à Tbilissi nous emmène dans le cortège. Au Proche-Orient, un accord de cessez-le-feu pourrait aboutir dans les prochains jours concernant le Liban. Et puis le gouvernement français entre en négociation exclusive avec Atos pour sauver la branche la plus stratégique de cette entreprise, ancien fleuron hexagonal de l'informatique. La décision a été validée il y a 2 heures. Aux États-Unis, Donald Trump n'est officiellement plus poursuivi pour ingérence électorale. Il était accusé pourtant d'avoir tenté de modifier le résultat de la présidentielle de 2020, mais en vertu de la doctrine du ministère américain de la Justice, qui depuis 50 ans ne poursuit pas un président en exercice, la procédure s'arrête ici. Le républicain, lui, continue de préparer son retour à la Maison-Blanche. Il a choisi la plupart des membres de sa future administration, qui doivent à leur tour recruter leurs collaborateurs. Et tout cela a un coût. Or, il y a un problème, l'opacité financière qui règne, Guillaume Nodin.
Lorsqu'ils s'étaient vus à la Maison-Blanche, Joe Biden et Donald Trump s'étaient engagés à une transition aussi douce que possible. Ça, c'était devant les caméras et cela avait duré 29 secondes. En coulisses, c'est apparemment un peu plus compliqué. L'équipe Trump n'a toujours pas signé le protocole d'accord prévu par la loi. L'équipe arrivante peut normalement bénéficier de financements fédéraux jusqu'à un peu plus de 7 millions de dollars pour rembourser ses frais de préparation et les recrutements de collaborateurs. Cela implique aussi que la nouvelle équipe dévoile combien elle dépense et surtout qui finance ses efforts. En clair, qui sont les donateurs derrière la constitution de l'administration au sens large. Et jusqu'ici, c'est le silence radio sur la somme globale engagée ou sur qui paye quoi et combien. Une opacité qui laisse la porte ouverte à toutes les interprétations sur d'éventuels conflits d'intérêts de la part de particuliers ou de secteurs économiques qui placeraient leurs hommes au cœur de l'administration. Contrairement aux campagnes électorales, il est également possible pour des étrangers de contribuer au financement de la transition et dans le cas présent sans que leur nom soit divulgué. En 2020, lors de l'arrivée de Joe Biden et en 2016, à la constitution de la première administration Trump, les protocoles d'accord avaient été signés malgré les tensions entre les camps rivaux. Guillaume Nodin, Washington. RFI.
À noter concernant cette transition politique américaine, la Maison-Blanche confirme que le président sortant Joe Biden assistera bien à l'investiture de Donald Trump. Le milliardaire avait lui refusé de se rendre à celle du démocrate il y a 4 ans. D'après Washington, un cessez-le-feu serait tout proche au Liban. Selon Paris, les discussions auraient avancé significativement ces dernières heures. Israël doit se prononcer d'ici demain soir, mardi, sur ce texte qui prévoit une trêve de 60 jours avec le Hezbollah. D'ici là, les raids continuent contre la milice alliée de Téhéran sur le sol libanais. Les frappes de lundi ont tué au moins 31 personnes dans des fiefs du Hezbollah. La guerre au Liban qui provoque aussi un certain nombre de victimes collatérales, des civils, mais aussi l'armée libanaise qui n'est pas partie prenante du conflit officiellement. La force des Nations Unies au Liban, la FINUL, répète ce lundi sa profonde inquiétude après des frappes meurtrières ces dernières semaines contre l'armée libanaise, des frappes imputées à Israël. Selon un bilan donné par Beyrouth, ces attaques ont tué 45 soldats. Vous écoutez RFI, il est maintenant 4h04 à Tbilissi, la capitale de Géorgie, où les 61 députés d'opposition ont boycotté hier la première journée de la nouvelle législature au Parlement. La contestation ne faiblit pas dans le pays après les législatives du 26 octobre dernier, officiellement remportées par le parti pro-russe au pouvoir Rêve géorgien, des résultats jugés truqués par le camp pro-européen. Sur place, Régis Janté.
C'est dans une ambiance de funérailles de la démocratie qu'a été installée cette 11e législature de la Géorgie indépendante. À midi, à l'heure où les 89 députés nouvellement élus du rêve géorgien étaient réunis dans l'enceinte du Parlement, leurs opposants, peu nombreux sous une pluie froide, faisaient du tapage et parodiaient dans une ambiance funèbre les messages de la police anti-émeute.
Policiers, dispersez-vous dans l'ordre. Ne laissez pas ici les restes de la loi russe, les juges corrompus, la propagande. Sachez que le pouvoir est dans les mains du peuple.
Au micro, les voix des leaders politiques et de la société civile s'étranglent de colère et d'émotion. Dans la foule, le désespoir se lit sur les visages. Comme dans un baroud d'honneur, les sifflets et les huées saturent le ciel de Tbilissi au moment où, sur un écran géant installé sur les marches du Parlement, on entend le doyen de la future Assemblée égrener les noms des députés élus de la majorité. En fin d'après-midi, la manifestation se dispersera dans le calme et dans l'attente angoissée des répressions promises contre les partis et organisations pro-occidentales, promises par l'homme fort du pays, l'oligarque Bidzina Ivanishvili. Régis Janté, Tbilissi, RFI.
Un autre pays pourrait bientôt être dirigé par un homme pro-russe. Il s'agit de la Roumanie. Le Premier ministre pro-européen a admis tout à l'heure sa défaite dès le premier tour de la présidentielle organisée hier. Marcel Ciolacu était pourtant le favori du scrutin. En tête pour l'instant, c'est une surprise, Calin Georgescu, candidat donc pro-russe, anti-OTAN, anti-vaccin, qui avait fait campagne sur TikTok. Quelle réponse de Bruxelles face aux autorités nigériennes? Ces dernières ont fait savoir publiquement qu'elles demandaient le remplacement du chef de délégation de l'Union européenne à Niamey, autrement dit de l'ambassadeur européen. C'est le fruit des tensions nées de la distribution d'aide humanitaire européenne après les inondations de l'été. Les précisions à Bruxelles de Pierre Benazet.
C'est la réaction officielle très limitée de l'Union européenne pour l'instant. Nous étudions les options à notre disposition. Officieusement, la demande de remplacement du chef de mission de l'ambassadeur de l'UE équivaut, selon l'Union, à le déclarer persona non grata. Ceci lui ouvre un vaste éventail d'options. Elles suivent une gradation de plus en plus lourde politiquement. En premier lieu, il y a les mesures miroirs. L'UE peut déclarer persona non grata l'ambassadeur nigérien à Bruxelles ou son adjoint. C'est la réciprocité et c'est la réaction la plus courante. Si elle veut aller plus loin, elle peut aussi exiger le départ d'autres membres du personnel de l'ambassade. En fait, tout dépend de l'évaluation de la gravité de la situation et de la volonté ou non de limiter l'escalade des tensions. L'UE peut aller jusqu'à couper ce qu'elle appelle les chaînes de communication et demander la solidarité des États membres, ce qui implique que les 27 capitales nationales prennent les mêmes mesures de rupture diplomatique que l'Union européenne, une option réservée aux cas les plus extrêmes. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
En France, il y aura un avant et un après Mazan, promesse du Premier ministre Michel Barnier face à ce procès qui ébranle la société française. Il annonce l'élargissement de la procédure de plainte à l'hôpital. Les remboursements des kits de détection des drogues va être testé dans plusieurs départements. Des mesures alors que le procès touche à sa fin. Plus de 50 hommes jugés en ce moment pour des viols commis en série sur une femme aujourd'hui septuagénaire, droguée par son mari. Le parquet a requis ce lundi 20 ans de prison contre lui. Toujours dans l'actualité française, l'opération Sauver Atos se poursuit. L'ex-fleuron de l'informatique, en grande difficulté financière, son cours en bourse a perdu 90% de sa valeur depuis le début de l'année. Or, les activités du groupe privé touchent à des intérêts stratégiques de la France. Et nous l'avons appris ce lundi, Nathanaël Vitran, la France est prête à nationaliser les supercalculateurs d'Atos.
Oui, les deux parties ont annoncé être entrée en négociation exclusive pour l'acquisition de la division Advanced Computing d'Atos, c'est-à-dire celle qui concerne ces supercalculateurs. On parle ici d'ordinateurs géants aux capacités de calcul hors normes, une technologie avancée utilisée pour le développement de l'intelligence artificielle, les prévisions météorologiques, mais qui sert aussi pour crypter les communications de l'armée française, et notamment pour tout ce qui concerne la dissuasion nucléaire. Autant dire une activité stratégique. En juin, l'État français avait fait une première offre sur un périmètre plus large, regroupant toutes les activités sensibles d'Atos pour lesquelles elle est en contrat avec l'armée française. Mais les deux ne sont pas tombés d'accord sur le prix et l'offre a expiré début octobre. Celle-ci est plus resserrée, elle ne concerne plus que les supercalculateurs. L'État propose entre 500 et 625 millions d'euros, dont 150 millions versés dès la signature qui pourrait avoir lieu avant Noël. La division Advanced Computing représente 2500 salariés principalement en France.
En économie, toujours des mauvaises nouvelles en série pour la sidérurgie européenne. Le géant allemand ThyssenKrupp va supprimer 11 000 postes, c'est plus de 10% de ses salariés. En France, c'est le groupe ArcelorMittal qui confirme la fermeture de plusieurs de ses sites à Reims et Denain. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, c'est l'heure de Couleurs tropicales.